des radios silences, bonjour. J'enregistre cette émission sur le bord de la Marne. Je suis à Meaux où je me suis posé depuis 2-3 jours pour une visite à la fois amicale et familiale. Et la Marne, c'est paisible. Hein. On a le bruit et le son des oiseaux. On peut admirer les canards. Et franchement, ça, c'est mi-rural, mi-urbain, et ça nous change beaucoup de la cité bruyante, de la ville qui grouille. Surtout que là, je suis en plein dans la forêt hein, du parc du Bâtisse, c'est ça, un parc naturel. C'est vraiment très reposant pour l'esprit et pour le corps, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vous avez le chant des oiseaux, vous aurez à peu près tous les bruissements de la forêt, et puis de loin, vous aurez quand même les activités urbaines, ça peut pas changer. Qu'est-ce que je vais dire? Là, vous allez vous dire, oui, on va avoir droit à un billet plutôt paisible. Eh bien, non. On ne change pas, voilà, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Et puis, on a tous une identité, même si elle est exécrable pour certains. Non, là, je plaisante. On fait ce qu'on peut, hein, donc on va être très sérieux. Et on va parler, bien sûr, du sujet qui est dans l'air du temps, à savoir la campagne présidentielle. J'ai passé là aussi toutes ces 2 semaines à discuter avec le peuple de France, bien sûr, et j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Que dit le peuple de France? D'abord, un sentiment, comment on va dire, les gens sont désabusés, hein, voilà, ils sont perplexe parce que c'est la première fois qu'une élection présidentielle est aussi indécise. Ils se disent, mais indécise et incertaine, pour qui allons-nous voter? C'est-à-dire que là, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, il y a un climat général de défiance à l'égard de l'élite française, à l'égard de ce qu'on appelle l'establishment, qui fait que il y a beaucoup de... On va aller voter peut-être, beaucoup vont voter blanc, beaucoup vont peut-être s'abstenir, peut-être pas, mais le vote blanc ne compte pas, donc ça revient au même. On va procéder, donc, nous ici, pas par élimination, parce qu'on ne peut éliminer personne a priori. On va se faire l'écho, voilà, on va rapporter l'écho de campagne. Premièrement, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un gros sentiment comme ça, un ressenti d'une injustice envers les petits candidats. Alors, on est candidat ou on n'est pas candidat, on ne comprend pas pourquoi le débat s'est focalisé, a choisi 5 ténors en laissant tous les autres candidats de côté. C'était un peu... C'est une sélection que l'on estime, que l'on juge arbitraire, qui n'a pas de fondement, bien qu'on puisse comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas être 10, 15 sur la table à débattre. Ça devient carrément de la cacophonie. Donc, voilà. On comprend. On va pas, pour une fois, les médias, on ne va pas leur jeter la pierre là. On comprend, c'était mission impossible de faire passer 10 candidats en même temps. Malgré tout, ça laisse la place au doute à notre fonctionnement, sur notre fonctionnement démocratique qui arrive un peu comme cela, à bout de souffle, parce qu'elle n'a pas prévu, j'allais dire, les imprévus. Et comment prévoir l'imprévu? Ça, c'est une grande question, programmatique d'ailleurs, qui se posera tôt ou tard, surtout lorsqu'on va parler de promesses qui ne sont jamais tenues par les candidats, et surtout lorsqu'on va parler de programmes sur le plan purement à la fois technique, et ce qu'on oublie toujours, c'est la dynamique du programme. Cette élection, donc, laissons de côté, on n'a pas choisi un tel, on a choisi un tel, mais malgré tout, dans ce « on n'a pas choisi un tel, on a choisi un tel », il y a Dupont-Aignan qui émerge dans le choix du cœur, dans cette élection où il n'y a ni place au cœur, ni place à la raison, ni encore de place à la passion. Du pont Aignan émerge et il y a un capital sympathique de la part des jeunes qui se disent, bah, il dit des choses intéressantes, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup écouté, mais bon, moi je vous rapporte l'écho, hein. Je n'ai pas de position à prendre pour le moment. Alors, procédons donc par élimination vite fait. Monsieur Fillon, écho de campagne, il a été vraiment gravement atteint par la campagne de, comment on va appeler ça, de sabotage qui a mené l'establishment, médias et politiques, partis politiques tous bords confondus contre sa candidature. C'était mesquin, c'était petit, et c'est le genre même de campagne, enfin de comportement qu'on ne veut plus voir de la part des hommes politiques. Et malheureusement, ça fait tache parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas et qui ont reporté comme cela sur M. Fillon toute la désespérance, toute l'aigreur, toute la colère, ce sentiment qu'on ne s'en sort pas, qu'on n'avance pas, qu'on fait du surplace et que l'avenir est bouché. Je ne parle même plus de l'ascenseur républicain qui ne marche plus depuis longtemps. Tout cela réagit négativement sur Monsieur Fillon, qui du coup a quand même un problème là de personne et de crédibilité personnelle, sur le plan vraiment de la personne, le plan humain, rien à voir avec son programme, qui fait peur aussi, mais le programme, c'est pas grave, ça on en parlera une autre fois, qui fait peur. Lui, il est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Sarkozy. Donc, c'est quelqu'un qui a fait partie du système et du coup, il est en partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui, même si on sait qu'il n'était pas toujours d'accord avec les prises d'opposition de M. Sarkozy. Bref, bon, voilà. M. Fillon a ce problème-là, dans un climat déjà marqué par la défiance. Comment faire pour créer la confiance alors que on l'a vraiment, l'establishment l'a vraiment abîmé, l'a rendu encore plus, comment dire, il fait peur, voilà, les gens, un repoussoir, on a fait des Fillon un repoussoir, et dans un climat de défiance, ça peut compter. Alors il faudra que M. Fillon fasse sa propre révolution, ça veut dire qu'il faudra qu'il voie du côté de son entourage, parce qu'on ne sait pas. Pour le moment, si cet entourage est là, parce que c'est déjà le cabinet ministériel annoncé, mais alors si c'est ça, c'est mort d'avance parce qu'on ne veut pas revoir les mêmes têtes d'il y a 30 ans. Ça aussi, c'est un problème. Le personnel politique est trop marqué, il dure trop longtemps sur place, il ne part jamais. Et ça aussi, voilà, ça peut gêner M. Fillon qui, par exemple, son directeur de campagne, j'étais surprise. J'étais à la fois contente parce que c'est l'ISER qui était un peu comme ça mise en avant, mais après, quand on lit la biographie, on voit que bah, le directeur de campagne, M. Chriqui, c'est un ancien conseiller de M. Fillon depuis des années qu'il a suivi dans tous ses postes ministériels et dans le cabinet. Donc là, il y a des réflexes qu'on retrouve sur le terrain de cet establishment trop sûr de lui. Trop arrogant, trop suffisant, trop hautain, ben ça on veut plus en voir. Hein. Voilà. Donc M. Fillon va se démerder avec son entourage, mais ce type d'entourage-là montre qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas changé. Or, il faut qu'il montre, qu'il donne des signes qu'il a changé. Je m'excuse, hein, je suis filloniste, mais voilà, il fallait que je le dise. Je suis filloniste, bah, si vous voulez. Je suis filloniste d'abord parce que il y aura la question de la majorité parlementaire qui va se poser et donc. Lui, il a un argument qui est la stabilité institutionnelle. Oui, on est d'accord. Donc à ce moment-là, je me dis, côté stabilité institutionnelle, Fillon a l'avantage. Mais tout le reste, non, ça ne va pas du tout. Il faut ramener, il faut qu'il y ait plus de signes. Quant au programme, on peut en parler sur un double axe. Il y a l'axe technique et il y a l'axe de la dynamique. C'est vrai que techniquement, le programme de M. Fillon, on peut dire qu'il sera financé. Mais ce qui manque toujours dans les programmes, c'est le récit de la dynamique à créer et à venir. Même si cette dynamique, certains vous diront qu'elle est utopique ou qu'elle est imaginaire, il faut ce storytelling, raconter, narrer une histoire, faire la promesse, narrer la promesse. Une promesse ne peut pas arriver comme ça, toute technique, parce qu'elle loupe le sujet, elle loupe la passion et elle loupe l'objet même, je veux dire, le pouls, voilà. Le cœur battant, j'aime beaucoup voir le slogan d'Amon. C'est un très très bon, slogan. Et non, monsieur Amon. Alors, monsieur Amon, il souffre aussi d'une sous-qualification, entre guillemets, hein, sous-qualification de la part à la fois de son establishment, de l'establishment de Sian, oui, et de toute la France. Vous savez, l'establishment, c'est quoi? Ils sont marqués du sceau de l'énarchie, ils sont marqués du sceau de l'empilement des mandats, ils sont marqués du sceau comment on va dire, d'une noblesse d'État, voilà, et que Amon n'est pas. Amon n'est pas tout cela. Amon, c'est vraiment l'outsider pour le coup de cette campagne. C'est pas Macron, hein, c'est pas Macron, parce que Macron, derrière lui, on a tout l'establishment. L'outsider, c'est Amon. Et c'est pas Mélenchon non plus, parce que Mélenchon, il fait partie du paysage depuis longtemps. C'est pas, ce n'est pas une tare, c'est un fait. C'est un fait, donc, Mélenchon fait partie du paysage et il en sait des choses sur la négociation salariale, etc., etc. On va pas trop insister sur Mélenchon, parce que Mélenchon, il aura un problème. C'est qu'il y a beaucoup de petits candidats qui sont justement de la même mouvance communiste que lui. Je crois qu'il y a M. Poutou, il y a Mme Artaud, il y a M. peut-être Cheminade, je ne sais pas trop de quel bord il se situe. Et puis il y a lui, ils vont se partager tout l'électorat communiste, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais il y a comme un souci de déperdition là, du vote communiste. La base électorale va peut-être faire la différence, comme on a dit tout à l'heure. Bon, on verra. Donc, je reviens à M. Amon, pas marqué du tout. Par tout ce qui est institutionnel, même s'il était associatif de l'UNEFID, il reste que voilà, il est dénigré par les médias, il est très peu connu du public, parce que curieusement, il y a quelque chose en Amérique qu'on appelle le name recognition, ça veut dire reconnaître quelqu'un par son nom, tout de suite quand on dit Hillary, bon, tout le monde sait qui c'est, 40 ans là, on dit Ségolène Royal, pareil, qui brille un autre mandat, c'est le même profil, hein, Ségolène Royal, Hillary, ça s'arrête jamais, candidat à tout, ne crée jamais d'entreprise, plein aux as, mais veut toujours vivre des fonds publics, c'est lamentable. On aimerait bien voir ces gens, enfin, ce grand personnel politique qui s'est dit énarque et consort. On aimerait bien les voir faire un peu du business et créer des emplois pour de vrai, pas en passant par l'État, hein, en passant par l'argent des autres, mais qu'ils risquent leur argent, d'ailleurs gagné trop facilement, hein, derrière le dos des citoyens. Donc, enfin, bref, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas le sujet. Quoique, ça parle de la longévité éternelle et de la rapacité des qui est devenu le carriérisme politique, sans résultat d'ailleurs, c'est enfin avec des résultats basés sur la capacité de crime, la capacité de détruire les boulots, la capacité de faire et de pratiquer le népotisme, la capacité de prostituer la République et la capacité de corrompre tout ce qui peut exister en termes de démocratie. Voilà, c'est dit. Bon, monsieur Amon, voilà, j'aime son slogan, le cœur battant de la France, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir, lui? Son principal argument, ben, c'est la base électorale socialiste. Contrairement à ce qu'on croit, moi je crois qu'il fera un bon score, parce que l'establishment socialiste a beau aller soutenir M. Macron, il n'en reste pas moins qu'on verra à ce moment-là ce que vaut chaque élu, c'est qu'ils valent, s'ils représentent plus que eux-mêmes, j'allais dire ce que valent se vaut, parce que lui il est tapis, là il passera chez Macron, il ne faut pas rêver. Monsieur Hollande a organisé tout cela, il a organisé la casse du PS, parce que on n'a pas voulu qu'il se représente en lui fourguant voilà, des faux sondages qui le donnaient perdant. Alors que c'était faux, la meilleure carte que le PS avait à jouer, je l'ai déjà dit, c'était curieusement M. Hollande, parce qu'ils n'ont pas mieux. Bon, bah, M. Amon, outsider, pourquoi pas on prend, Martine Aubry est derrière, c'est un bon signe, ça ce sont des élus qui comptent, Martine Aubry, la base électorale est là, je l'ai vue à Bercy, elle est forte, elle est dynamique, elle est tonique, elle sera présente pour M. Amon. Et puis, ça va être le défi de voir le score, le différentiel entre Amon et Macron. Et là, on saura enfin ce que valent les élus dans cette République. Et puis, on a Monsieur Macron. Ah, Monsieur Macron. Franchement, j'ai rien à dire pour le moment sur Monsieur Macron parce que plus il parle, plus je comprends pas. Et probablement que moins il en dit, mieux c'est, parce qu'on ne sait pas qui est derrière, qui tire les ficelles, tout cela reste très flou. Donc attendons de voir, parce que là, franchement, son score dépendra du poids de tous les transfuges, à la fois juppéistes, à la fois probablement beiruistes, à la fois probablement, je ne sais pas, Monsieur Lassalle, qui est petit candidat, et votre acquis. On verra ce transfert-là, je ne sais pas. Il n'y a pas de visibilité sur le plan Macron, sauf ces puissances supposées de l'establishment. Eh bien, on verra. Il arrive avec cette puissance, elle a échoué quand même. Hein. Voilà, c'est le peuple qui fait le vote, ce n'est pas l'establishment. Enfin, on va arriver au grand sujet, au grand débat. Madame Marine Le Pen. Ah, c'est quelque chose, hein, Marine Le Pen. D'abord, elle fait compétition, elle sait très bien qu'elle ne gagnera pas. Donc, ça c'est clair, parce qu'il y a le plafond de verre, c'est pas seulement pour nous les immigrés, heureusement, il y a une justice ici-bas. Il y a le plafond de verre qui fait qu'au second tour, le Front ne passera jamais en France. Ça c'est dit. Mais on note quand même cette récurrence qui est que, voilà, quand le PS est au pouvoir, ben, le Front il grimpe d'une manière phénoménale. Et voilà, ça se reproduit, c'est imparable. Hollande n'a rien fait, ben, le Front a bondi. Et c'est mécanique. Bon, est-ce que ce bondissement va se traduire en termes électoraux? Ah, je ne sais pas. Il se peut qu'elle soit au second tour, je ne sais pas. Mais Madame Le Pen, elle a fait quoi? C'est d'abord un produit marketing politique. C'est un produit marketing politique. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une mue qu'elle n'assume pas. Elle allait signer pour le mariage gay sans le dire. Je m'en fous, oui ou non, ce n'est pas la question de mariage gay, mais il faut dire et avancer sans les masques. Elle est pour le mariage gay, il fallait qu'elle le soit parce que c'est la condition pour passer très bien dans les médias. Et M. Fillon d'ailleurs est poursuivi pour cela parce qu'il n'a pas dit qu'il était pour le mariage gay. Donc, quand vous êtes pour la famille, il y a un souci. Vous ne passez pas dans les médias, ils trouvent un plan avec leurs petits copains qui veulent mettre en place la première république gay en France, parce que M. Macron ne sait pas aussi s'il est gay, il va faire son coming out quand. Quand Beau George le soutient, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, donc il faut aussi qu'on sache, peut-être qu'il est bi, finalement, on ne sait pas. Bref, quel était le contrat entre Hollande et Macron? En amenant Macron au pouvoir à la fin du mandat, on le saura après le mandat. Marine Le Pen, donc, elle est pour le mariage gay, elle a signé cela, donc du coup, elle passe dans les médias, on en fait tout un plat dessus de Marine. Marine Le Pen propose quoi? D'abord, un, il y a un reniement du Front, voilà, des valeurs du Front. Deux, elle propose de mettre l'immigration zéro. Donc, on a tout de suite quelqu'un qui est incompétent en matière de l'histoire entre l'Afrique. Je prends le cas de l'Afrique. L'Afrique et la France, il y a une histoire des peuples, une histoire diplomatique, une histoire de la coopération qui fait que personne ne peut arriver et dire immigration zéro. Alors, on m'a dit, oui, elle a une alternative parce que je lui ai dit, en discutant avec les gens, je leur ai dit, à ce moment-là, il faudrait que M. Bolloré, il faudrait que M. Bouygues, il faudrait que Monsieur, Borloo, tous ceux qui font, tous les grands affairistes francophones en Afrique, il faudrait donc qu'ils laissent la place et que les choses soient claires pour que les Africains aient de l'emploi chez eux et de l'autorité chez eux. Parce que jusqu'à présent, figurez-vous qu'il y a des lieux stratégiques qui sont interdits aux Africains, mais que les Français peuvent exploiter à leur guise. Il paraît qu'elle est pour dire que oui, Bolloré va rentrer, Bouygues va rentrer, Orange va rentrer, tout ce monde-là, c'est fini, le postcolonialisme est terminé. Ben, c'est pas possible. Elle aura affaire au FMI, d'abord, frontalement, elle aura affaire à tous les lobbies pétroliers, frontalement, elle aura affaire à tous les lobbies, vous savez, qui exploitent le diamant et tout ça, frontalement, elle aura affaire à des forces du mal qui vont se déchaîner, elle ne peut pas le faire. Et surtout, la France est quand même, avec l'Afrique, elle a besoin de l'Afrique comme moteur, sinon, ça va pas aller. Elle va régresser, elle va tomber très 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 bas, son économie et son pouvoir diplomatique dans le monde. Donc, elle peut pas venir vous dire ce genre de choses, ça marche pas. Et puis, elle dit la même chose sur la sortie de la France de l'euro. Non, c'est plus compliqué. Le Brexit, c'était facile, parce que l'Angleterre, c'est facile, et encore on voit que c'est difficile. Bon, difficile techniquement parlant, mais dans la dynamique, ça va aller hein, pour Londres. Londres n'était pas dans l'eurozone, donc c'est plus facile de continuer à battre monnaie. Mais la France, elle va faire quoi? Déjà, il n'y a pas une clarté sur qui va continuer à battre monnaie. Ce sera la Banque centrale. Que deviennent les rapports avec les banques? L'Union européenne. Madame Le Pen travaille dans l'Union européenne. Elle ne peut pas critiquer l'Union européenne et y travailler. C'est fondamentalement, je ne sais pas comment vous le dire ça, mais c'est une escroquerie intellectuelle ça. Tout ça fait que c'est vraiment une bulle médiatique. Heureusement, elle passera pas, c'est très bien. Bon, ça occupe la place. Je veux dire, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit pourquoi tant de place pour Marine Le Pen et pas autant pour M. Dupont-Aignan. Ouf, on va atterrir. Alors on va atterrir de quelle façon? Très simplement en disant la victoire est possible et ouverte pour tous les candidats, à l'exception de Marine Le Pen, bien entendu. Mais Marine Le Pen, vous savez, là, on ne fait pas trop. Il y a certains qui font la politique juste pour le fric, hein, parce que vous savez que le nombre de voix est converti en argent, hein, donc c'est pas trop ce qu'ils cherchent. Hein. Les jeux sont ouverts, oui, le jeu est ouvert, très ouvert. Celui qui saura à la fois inspirer un minimum de confiance, celui qui saura à la fois sortir de l'imposture, notamment médiatique, et accessoirement de la matrice de ce qu'on appelle l'establishment, celui qui saura inspirer confiance en projetant le peuple vers un horizon, le mot horizon, vous avez vu, il a pris du coffre, hein, vers un horizon, je ne vais pas dire meilleur, mais un horizon où on a quand même quelque chose, non pas de très très lointain, mais de très très visible, ou plutôt de concrétisable. Il y aurait beaucoup d'exemples. Hein. On parle du RSI à supprimer, pourquoi pas. Mais on n'a toujours pas dit, on n'a toujours rien dit sur l'accès au crédit. L'accès au crédit, c'est fondamental et tant qu'on n'a pas débloqué cela, tout le reste, c'est un peu les charges et tout ça, ça vient bien après. Il faut déjà démarrer avant d'attaquer les charges. C'est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples qui sont possibles. Il y a la formation professionnelle et la reconversion dont on ne parle pas, des véritables formations. Il y a surtout l'arnaque que j'ai vu en ce moment, l'État qui soutient le travail légal au noir. Je vois quand il y a des travaux de réfection des HLM, je vois beaucoup de gens qui sont là, qui travaillent, mais d'ouvriers, mais qui ne parlent pas un mot français, alors que dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui ont passé les CACES, je ne sais plus comment on appelle ça, et autre chose, et qui ont des formations, et qui sont qualifiés, et voilà, qui ne travaillent pas, parce qu'on va les payer plus cher, donc du coup, c'est l'État lui-même qui organise le dumping social, l'État malhonnête, ça c'est un problème, l'État impartial, ça c'est un problème, et puis on a vu les privilèges. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui sont à réformer sur le plan institutionnel, rien qu'en réformant les institutions, je vous assure qu'il y aurait une formidable histoire de France à raconter, à écrire ensemble, et je ne vais pas dire vive la France, mais franchement, si un candidat, oui, on a parlé de cela, je l'ai entendu cela dans les discours, ceux qui ont précédé, ceux qui ont chauffé la salle d'amont, j'ai entendu dire oui, mais c'est fini le temps de l'homme providentiel, maintenant c'est le team. Ça veut dire quoi le team? C'est des histoires d'Américains, ça? Des histoires de Britanniques? Ça compte, l'homme providentiel. On l'a vu ici avec De Gaulle. Ça compte, l'homme providentiel. Et peut-être que la France, si aujourd'hui elle est dans cette merde noire, si aujourd'hui elle patauge, c'est justement parce que elle a perdu, comment je vais dire, elle a mis en place tout un système qui fait qu'elle ne peut plus produire un homme providentiel. Tout est fait pour bloquer l'excellence. Tout est fait pour bloquer la grandeur, tout est fait pour bloquer l'esprit français dans ce qu'il avait de profondément noble, à la fois noblesse d'épée, noblesse d'esprit. Vous savez, avant, pour combattre, on ne trichait pas, on aime aller dans des duels, et les duels en ont tué des gens. Les Français, c'était des hommes qui avançaient non masqués. Aujourd'hui, la culture a changé, ils volent, ils avancent masqués, ils ont peur, ils organisent des coups bas, mais ça, c'était pas français, ça. Toute cette médiocrité fait qu'après, on dit le team. Mais le team, c'est quoi? Si le team est composé de médiocres, ça reste, ça copie, ça multiplie la médiocrité. Il faut des hommes forts dans des États, et tout ce système qui consiste à couper les têtes de tous, de tous ceux qui débordent un tout petit peu par la hauteur, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Monsieur Fillon n'était pas attendu, il ne devait pas gagner, donc pendant ce temps-là, personne ne lui faisait de procès. Sa femme a arrêté d'être assistante parlementaire depuis des lustres. Et maintenant qu'il a gagné, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui couper la tête. Voilà. Ce système français, il est diabolique, il est minable, il est petit. Et qui va changer cela? Je vous assure, ça ne sera pas un team, ça sera un homme ou une femme providentielle. Une femme, je ne suis pas sûr, hein. La France n'est pas prête. Pas qu'elle n'est pas prête, mais c'est pas possible d'être femme politique forte en France sans passer par hein, la promotion canapé. Donc déjà, c'est compromis. Il faudra à la France un homme providentiel pour retrouver le Nord. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.